Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bienvenue, bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Samir. Bonjour Samir.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Voilà, je vous appelle par votre prénom puisqu'on n'en sait pas plus. C'est à la fois votre prénom et votre nom de plume. Donc toujours pas de nom.
Toujours pas.
Bien, vous publiez votre premier roman. Ça s'appelle Saccharose, au pluriel, aux éditions Jean-Claude Lattès. En général, ceux qui écrivent un premier roman écrivent un roman autobiographique. Et vous, à quelle distance êtes-vous de votre livre ?
On me pose souvent la question, à savoir est-ce que ce qui est relaté dans Saccharose est directement inspiré de ma vie ? Il y a des paragraphes et des passages qui sont effectivement directement inspirés de ma vie, mais le reste n'est qu'un pur fiction. Je peux même les cibler un peu plus précisément pour ceux et celles
qui se dévoilent. Alors là, si vous vous dévoilez à une minute du début de l'émission, vous allez terminer à poil. Hein, tout de suite. C'est quels sont, parce qu'il y a trois personnages en fait hein, dans votre.
Il y a trois personnages effectivement. Alors pour rappel, Saccharose, c'est trois parties, c'est bonbon, sucre et popcorn, et dans bonbon. Caïs est probablement le personnage qui me ressemble le plus, et en particulier durant l'enfance, quand il dit qu'il est complètement fan des Mille et Une Nuits et de foot à la fois, c'était moi quand j'étais gosse. Le premier baiser avec Benetton était mon premier baiser, le goût confiture bubblegum, etc. Donc ça, effectivement, c'est moi, mais le Caïs qui grandit, qui devient trader, qui travaille dans la finance et puis qui se suicide, parce qu'il annonce d'ailleurs sans spoiler directement dès les premières pages qu'il se suicide. Là, non, on est dans la fiction la plus impure.
Ça vous allez bien d'être trader en prêt de corriche en fait. Bon, on parlait du premier baiser. Alors, comme pour vous, le faire savoir est aussi important que le savoir-faire, on en écoute un extrait.
Étudiant, je potassais mes cours jusqu'à la dernière minute. Des fourmis plein les jambes, le palpitant au bord des lèvres. Une irrépressible envie de faire dans mon froc. J'ai ressenti la même chose avant d'embrasser une fille pour la première fois. Elle s'appelait Benetton. Ou plutôt, c'est comme ça qu'on l'appelait. Inutile de me demander son vrai nom. Seul comptait celui lu sur son t-shirt le jour de la rentrée. Brodé en fluo sur ses petits seins, moulés par les lanières d'un gros cartable. Benetton. Tout le collège était fou d'elle. Y compris les filles, désorientées par ce petit épicentre de féminité. Moi, j'étais fou de ses yeux, d'un bleu si insensé qu'il ridiculisait la flotte de la piscine municipale. Suffisait d'y tremper les miens pour que tout se mette à tourner autour de moi. 12 ans, et déjà ivre.
Il y a une version audio de Saccharose ?
Non, il n'y a pas encore de version audio, mais j'adorerais faire un audiobook. Ça m'a été beaucoup demandé.
Ça cartonne,
demandé.
Ça déchire, alors là, franchement.
Merci, ouais. Merci Philippe. Je pense que, de toute façon, la littérature aujourd'hui doit se démocratiser, utiliser au maximum tous les nouveaux formats, toutes les nouvelles technologies qui sont à sa disposition pour toucher de nouveaux publics. Pour moi, ça me tient extrêmement à cœur. On n'écrit pas pour une élite, on écrit pour tous et on a envie que beaucoup de personnes prennent ce livre, s'emparent de ce livre. Moi, ça me tient particulièrement à cœur et je sais que certains aiment beaucoup ce format, le livre audio et écouter ça dans le métro, écouter ça dans la voiture.
À la gym, pour ceux qui avaient, qui allaient à la gym avant.
C'est ça.
Avant le Covid.
Exactement. À la gym aussi. Et moi, j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. Je pense que je vais le faire d'une manière ou d'une autre. Ça me tient à cœur aussi. On me l'a beaucoup demandé, donc moi, je suis plutôt du genre à répondre par l'affirmative ou quand on me le demande.
Je parlais de faire savoir, vous êtes un publicitaire dans l'âme, et c'est vrai que finalement, pour vous, c'est presque aussi important de faire la chose que de la faire connaître et d'inventer des formats de communication.
Oui, et je pense que c'est pas...
C'est un tout, c'est un projet en fait. Saccharose, on peut voir ça comme un projet total, global.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est pas un mot sale d'ailleurs, le mot publicité ou le mot communication. Je sais que c'est un petit peu particulier dans mon cas parce que la plupart des écrivains, quand ils signent dans une maison d'édition, s'assiedent et puis attendent et laissent faire ou laissent les choses se passer. Moi, j'ai plutôt une approche assez active par rapport à la communication. J'aime bien beaucoup m'impliquer, j'aime bien faire des choses différentes. Je trouve que la communication dans le monde du livre est encore... n'est pas encore à la page, selon moi, n'est pas encore au niveau où elle devrait être. Et j'essaie de faire des choses un peu neuves, un peu nouvelles. Et effectivement, le faire savoir est extrêmement important et participe de l'œuvre en elle-même. La façon dont on va le lire, le faire connaître, le mettre dans des mains qui peut-être n'allaient pas le saisir ou ne vont pas dans des librairies. C'est important de sortir aussi des lieux communs de la littérature. La librairie, c'est extrêmement important. Il faut soutenir les libraires qui sont des vrais passionnés. Et
qui font les succès des livres.
Hein.
Il faut quand même expliquer qu'un succès d'auteur, c'est d'abord un succès de librairie. Et les libraires ont le pouvoir de faire le succès des livres.
Totalement d'accord avec ça. Et à contrario des grandes plateformes que l'on connaît, que sont Amazon, que sont Cultura, que sont la Fnac, même si Cultura et la Fnac, c'est différent d'Amazon dans la mesure où il y a quand même des lecteurs et des vendeurs et des conseillers chez ces enseignants-là. La réalité, c'est que le petit libraire du quartier, ou le gros libraire du quartier, parce qu'il y a des bonnes librairies aussi, avec une très bonne réputation, et qui font du volume, eh bien, c'est quand même irremplaçable parce que ils vont défendre des livres comme personne, ils vont en parler comme personne, ils vous connaissent. C'est toujours mieux qu'un algorithme de recommandation d'Amazon. Un algorithme de recommandation d'Amazon va se baser sur votre historique de lecture, sur les recherches que vous avez faites dans la barre de recherche du site Amazon, et puis basé sur ces informations-là, va vous recommander 3 livres. Le libraire, il va vous regarder, il va voir de quelle humeur vous êtes, etc. C'est un peu ce que je décris aussi dans Popcorn, mais avec les VHS, avec les cassettes vidéo.
C'est le même principe. Qui partent à la poubelle, hein. Ça y est, c'est la fin d'un monde, VHS, DVD.
C'est très dommage. C'est très dommage.
La littérature, d'ailleurs, dans Popcorn, c'est aussi la fin de la littérature, d'une certaine façon.
Oui.
Puisque votre héros est un écrivain, qui n'arrive plus à écrire.
C'est ça. Dans Popcorn, le héros est un ex-écrivain. Il a décidé d'arrêter d'écrire. Et la raison pour laquelle il a décidé d'arrêter d'écrire, c'est que pour lui, Netflix a gagné, les images ont gagné, et les mots sont battus à plate couture, et que les gens ne lisent plus. Et ce qu'il dit d'ailleurs dans Popcorn, et qui est très vrai, c'est que les écrivains ne sont rien sans leurs lecteurs et leurs lectrices. Absolument rien. Ils resteront à jamais des livres dans des cartons. C'est une véritable coproduction que la littérature. Il faut écrire le livre, mais il faut surtout être lu. Et moi, c'est ce qui me passionne le plus, en réalité, dans la littérature.
Écrire pour pas être lu, c'est la moitié du travail, comme vous dites.
C'est ça, c'est la moitié du travail, et l'autre moitié, c'est le lecteur ou la lectrice qui va le faire, et qui le fait, et c'est extrêmement important. Donc, tout à fait, c'est extrêmement important par rapport à ce genre de choses.
Alors Samir, l'émission est filmée, vous êtes venu avec un objet de promotion, c'est la publicité sur lieu de vente, la PLV, vous avez montré la caméra, vous avez mis tout votre livre sur un poster. Vous imaginez s'il y avait ça dans les stations de métro? Ça serait génial.
Vous n'êtes pas le premier à...
Ça serait génial. C'est l'intégralité de votre livre, comme ça, sur un poster.
Oui,
super.
Alors, c'est une idée de mon éditeur, Maïr Guven, de le mettre totalement sur une page.
Alors, on va en parler de lui, parce que c'est vrai qu'il démarre une collection chez Jean-Claude Lattès.
Tout à fait. Voilà. Donc, son idée, c'était de mettre la totalité du livre sur cette affiche que vous voyez ici. C'est une très belle idée. Et on l'a d'ailleurs, en plus, affiché sur tout un mur au bord du canal Saint-Martin. On a eu un petit peu de presse sur le sujet. Ça a un petit peu fait parler, notamment sur BFM. Et
alors BFM, c'est les autres en face, hein. C'est pas nous.
on peut comprendre.
Il y a beaucoup de gens qui disent, je vous écoute sur BFM. Alors je tiens à dire, non, BFM, c'est une très bonne chaîne de télévision, mais c'est pas nous. On n'a pas la même ligne éditoriale.
Donc voilà. Voilà un autre exemple typique de comment on peut communiquer différemment. Comment on peut, amener la littérature là où on ne l'attend pas, faire reprendre aux mots leur juste place, c'est-à-dire au centre, et j'en suis très content.
Samir, vous écrivez votre livre comme un tweet, ou comme une série de tweets finalement, qui se suivent?
Non.
Non?
Non.
Amusez-vous à compter le nombre de caractères par paragraphe, vous allez comprendre. Alors, vous ne l'avez peut-être pas fait exprès.
Je l'ai pas fait exprès. Cela dit, un tweet, quand on rédige un tweet, il y a toujours une intention d'être extrêmement, enfin, pour moi, c'est, j'assimile un tweet et j'associe un tweet à l'humour, à l'ironie, et pas forcément à la geste artistique. Donc ça, c'est la principale différence avec un tweet. Là où peut-être, effectivement, on pourrait faire une comparaison qui serait juste, ce serait de dire la concision est le maître mot dans mon style. Ça, c'est vrai. Je fais l'économie
de mots. Ils sont très indépendants, en tout cas, les passages. Et en plus, ils suivent un parcours de ligne de métro, la ligne 8 du métro.
Exactement.
Ça pourrait être un livre écrit dans un...
Par exemple, a été écrit dans le métro.
Ça pourrait être un livre écrit dans le métro, vous voyez, sous forme de tweet. Mais bon, maintenant, moi j'y vois ce que je...
Oui, après l'autre truc qui me dérange un
peu dans le tweet... Il a écrit dans votre métro, votre livre.
Une bonne partie, oui. Franchement, une bonne partie, c'est souvent là que j'écris, parce que c'est un endroit qui m'inspire. Tous les visages que l'on y croise, le fait d'être dans une position où on ne peut rien faire d'autre finalement que soit lire, soit écouter de la musique. Donc on est posé et on peut se concentrer sur quelque chose, et moi c'est l'écriture. Et oui, donc c'est effectivement le cas. Et pour finir sur le tweet, moi ce qui me dérange aussi sur le tweet, c'est les fautes d'orthographe. Il y a énormément de fautes d'orthographe qui sont aussi souvent volontaires, parce que moi le premier j'en fais.
Qui sont stylistiques finalement.
Exactement, qui sont volontaires parce que du fait du nombre de caractères limités, on essaie de faire tenir un maximum de mots, donc on va écrire un C apostrophe EST avec un C tout court, je le fais, donc je critique absolument pas, mais de ce fait-là, ça me dérange un petit peu de comparer ça avec un tweet.
Bien, on va demander à Nicolas d'appeler un ami. Alors, on fait ça dans les conditions du direct, alors on sait pas s'il va répondre. Si je vous le dis, c'est pas une surprise. Alors, ça se passe en direct. Si répond, on dit que c'est la valise RTL. En général, ça
Bonjour.
Fonctionne.
Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est plus propriétaire de ce numéro. Ce numéro est opéré par l'application mobile OnOff. Il est en ce moment en quarantaine et sera sous peu réattribué à un autre utilisateur OnOff. Merci de ne plus appeler ni envoyer de SMS à ce numéro. Pour toute information supplémentaire sur l'application OnOff, visitez notre site internet www.
Eh bien moi, quand j'ai composé ce numéro ce matin, il y avait un répondeur qui a répondu, un répondeur de femme.
C'est bizarre que ça n'ait pas répondu. Vous avez appelé Bonbon.
Ouais, j'ai appelé Bonbon. Il y a un numéro de téléphone dans votre livre. Je dis, c'est pas vrai, là, il balance pas le numéro comme ça. Et finalement, ça vous dirige vers un répondeur.
Bah oui, et c'est étrange d'ailleurs que ce message... on va essayer de voir avec Bonbon ce qu'il en est véritablement. Mais oui...
Alors j'étais très déçu parce qu'il n'y avait pas de profil WhatsApp. Là, j'ai dit, c'est de la publicité mensongère. Parce que dans votre livre, vous parlez du numéro de téléphone de Bonbon que vous donnez. Oui. Et vous dites qu'elle a un profil WhatsApp. J'étais très désireux de voir à quoi elle ressemblait sur son profil WhatsApp.
Peut-être qu'elle a supprimé WhatsApp.
Vous croyez?
Peut-être qu'elle a supprimé WhatsApp.
Vous êtes méticuleux. Vous n'êtes pas poussé le sens de la dérision jusqu'à lui créer un profil WhatsApp.
Ah non, mais moi, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est véritablement Bonbon qui a créé son compte WhatsApp, son compte Insta. Bientôt, elle me parle même d'un compte Insta, peut-être dans pas très longtemps. Et c'est son numéro de téléphone, son vrai numéro de téléphone. Bonbon existe, mesdames et messieurs.
Saccharose, c'est le premier roman de Samir qui est avec nous aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, on va citer la collection, puisqu'on parlait de votre éditeur qui vous suit depuis des années. C'est un homme, il est fidèle, très fidèle.
Oui.
Collection La Grenade.
C'est Maier Guven a créé ce label, la collection La Grenade, avec l'intention et la volonté de faire connaître de nouvelles voix. Donc c'est tout à son honneur et il fait un très bon travail à ce niveau-là. On s'entend très bien, on a la même vision de la littérature, on a la même vision des livres et de ce qu'ils devraient, de leur pouvoir et de ce qu'ils devraient faire dans le monde d'aujourd'hui, dans notre société. Et donc je ne peux que vous encourager à vous intéresser à tous les auteurs de La Grenade, auteur aussi avec un E, parce qu'il y a par exemple Ella Fekki qui sort à la rentrée,
ouais.
Qui va publier un livre qui s'appelle Les Noces de Jasmin. Donc intéressez-vous à ces nouveaux auteurs qui viennent avec vraiment une nouvelle voix, une nouvelle façon d'écrire et qui racontent de belles histoires.
Samir est l'invité du Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Premier roman aujourd'hui qui s'appelle Saccharose, un roman qui en compte trois finalement. Ça fait un tout aujourd'hui, sucré, ça sort aux éditions Jean-Claude Attel. La thèse, son auteur est là, il s'appelle Samir. Vous avez toujours cette volonté d'être discret et de ne pas mélanger l'écrivain public que vous allez devenir avec l'entrepreneur imaginatif que vous êtes?
Oui, je pense que ce sont deux personnes qui se rencontrent parfois, mais j'aime bien compartimenter les choses.
Vous n'arrivez pas à les réconcilier?
Elles sont pas forcément en opposition. C'est que l'écrivain, Samir l'écrivain, a écrit parce que justement, le monde des affaires est parfois dépourvu de poésie et qu'il a besoin de l'écriture pour retrouver cette poésie. Et si on lui impose de reparler de sa vie d'homme d'affaires, ça sert pas à grand chose finalement. Et de la même façon.
Ça aide pas à vous comprendre mieux?
Si, bien sûr.
C'est compliqué de faire une interview quand finalement on peut pas s'amuser un petit peu à vous titiller sur l'autre vous-même. Cette part de schizophrénie que vous avez, le créateur de, on parlait des algorithmes tout à l'heure, mais le créateur de Macaron par exemple.
Oui, ben vous avez vu qu'on reste quand même dans le sucré, hein. Avec Macaron sur cette start-up que j'ai fondée il y a quelques années maintenant et qui est effectivement dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes et tout ce genre de choses. Mais on en parle trop de l'intelligence artificielle, on en parle trop des algorithmes, on parle trop même de science. Si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Covid-19, avec ces nouveaux grands prêtres invités à table qui sont les médecins, on parle trop de toutes ces nouvelles sciences qui sont censées nous transformer, faire un homme augmenté de demain, etc., qui moi je suis pas forcément, j'aime beaucoup la technologie, j'aime beaucoup je suis plutôt un techno optimiste, mais je ne suis pas non plus un techno béat. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention et je trouve qu'il y a ces choses là ont suffisamment voix au chapitre dans les médias mainstream et autres pour que on les introduise ou on en parle quand le livre est invité. Quand le livre est invité, je pense qu'il faut parler du livre. On n'en parle pas suffisamment.
Mais si on parle du livre, on va spoiler en fait. C'est ça. Donc en fait, on est entre les deux. On peut tourner autour du livre, mais en fait, le plaisir de votre livre, c'est de pas raconter l'histoire. Et donc finalement, quand on est un écrivain, on est là aussi pour vendre sa vie. Les écrivains vendent rarement leurs livres. Dans les émissions, quand vous allez chez Ruquier, vous n'allez pas vendre votre livre. Enfin, voyez.
Bah ça c'est alors. Pour être totalement transparent avec vous, Philippe, ça c'est vraiment une vision, et je dis pas ça de manière péjorative, journalistique, parce que beaucoup des journalistes à qui j'ai parlé ont dit il faut essayer de parler du personnage. Et moi, étant dans la communication, je suis pas timide par rapport à ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu de que le texte ne puisse pas de lui-même tenir tout seul et qu'il ait besoin d'une ou deux béquilles pour attirer l'attention. Et moi, un journaliste de France Inter notamment qui me l'a dit, il m'a dit il faut parler de toi, de ton passé par exemple, t'as grandi en banlieue, donc il y a quelque part quelque chose de prométhéen dans le fait d'arriver au niveau où tu es, d'être publié, etc. Il y a une vraie histoire. Moi déjà là, cette histoire elle a été racontée des milliers de fois, elle m'intéresse pas. Hein. L'histoire de.
Mais comme vous êtes un roi du storytelling, finalement, avec un peu de chance, vous l'avez arrangé à votre sauce.
Un petit peu, mais je le fais de manière un peu plus discrète et je le fais surtout de manière à ce que, et j'insiste, que le texte prenne le pas sur tout. Je le dis sans langue de bois. Pour moi, la vraie star, ça reste le texte et c'est le texte et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de tout. Cette communication, de tout se faire savoir, pour vous paraphraser, autour de Saccharose, c'est le texte. C'est d'ailleurs, même quand je communique, puisqu'on veut parler, on va parler peut-être des choses qui ont été faites, qui sortent des sentiers battus. Il y a eu des vidéos qui ont été faites avec des gens de grands talents, comme par exemple un ami réalisateur qui s'appelle Serapis, SJD, une actrice, pour moi qui est actrice, elle se définit pas comme actrice, Lola Bouchareb, qui a un talent fou. On essaie de faire des choses qui sont très différentes, mais à chaque fois, c'est le texte qui est, même si visuellement c'est très beau, mais c'est le texte qui est déclamé à chaque fois. Et le texte, et la vidéo, vous ferez le test de regarder la vidéo sans le texte déclamé derrière. J'espère que c'est insipide, parce que ça reste très beau. Mais le texte décuple, décuple la puissance de l'image. Et ça, c'est, je crois, la plus grande victoire de la littérature.
Alors, Samir, vos héros, en tout cas, ont un point commun, c'est qu'ils ont du mal à grandir. Ils sont très nostalgiques de l'enfance et des saveurs de l'enfance. Vous, c'est votre dernière année dans votre décennie, là.
Oui.
Si tout va bien.
Oui.
Si c'est bien la bonne fiche
c'est
que
ça.
J'ai. Vous allez en faire quoi? Et combien de fois vous allez avoir 20 ans dans votre vie? Parce que là, vous allez finalement pas avoir plusieurs fois 20 ans.
Ça, c'est une phrase que répète l'imam un peu funky que va avoir Caïs quand...
Ça, c'est un personnage de votre livre, voilà.
Oui, tout à fait. Mm. Dans Bonbon, Caïs perd sa maman et va voir un imam, peut-être un peu pour se consoler, peut-être aussi un peu pour organiser les obsèques, on ne sait pas véritablement. Et cet imam très funky, qui adore le foot, qui lit John Coltrane, etc. Et justement, Caïs voit tout ça, il voit cet imam, il s'attendait à voir des Corans partout, peut-être des recueils de hadith ou des choses comme
ça,
et il voit...
Mais c'est un imam de 4.0, lui, donc il a
exactement.
Passé...
Exactement, c'est un imam funky que moi j'aime beaucoup, j'aurais aimé beaucoup rencontrer cet imam, je ne désespère pas, il doit y en avoir. Et il est complètement étonné, et il dit à cet imam, mais comment ça se fait? Je vois John Coltrane, je vois Nietzsche, qui a dit que Dieu est mort. Je vois du jazz, je vois Maradona qui a dit qu'il avait marqué avec la main de Dieu. Comment ça se fait? Il dit, mais j'ai eu plusieurs fois 20 ans, j'ai eu 1000 fois 20 ans dans ma vie, j'ai eu de multiples vies dans ma vie, et ça c'est aussi un thème qui me tient à cœur.
Mais ça vous ressemble?
Parce que complètement.
Quand même, c'est cette histoire d'avoir plusieurs vies dans la vie, et finalement de ce côté...
Ça j'y crois, et je trouve que c'est quelque chose... d'extrêmement important parce qu'on vit dans une société qui tend vers l'hyperspécialisation. On ne peut faire qu'une chose bien. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Moi, j'avais un prof qui m'avait raconté une petite histoire et qui m'avait dit « Samir, vous, je vous vois venir de très loin, vous aimez trop de choses. Vous voulez trop de choses à la fois. » Il a dit « Et votre problème, c'est que vous allez creuser un trou pas très profond, mais très large. » Il dit, mais ceux qui réussissent dans la vie aujourd'hui, ce sont ceux qui creusent un trou très profond, avec un très petit diamètre. Il dit, c'est ceux-là qui réussissent dans la vie. Et puis moi, j'avais beaucoup de réparties déjà à l'époque. Il s'appelait Monsieur Leclerc, Xavier Leclerc. Et je lui dis, Monsieur Leclerc, vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire tomber les gens dans mon trou. Ils auront plus de chances de tomber s'il est beaucoup plus grand dans son diamètre que s'il est beaucoup plus petit. Et puis ils se feront moins mal parce qu'il est peut-être moins profond. Voilà. Il avait souri et au-delà de la petite anecdote, j'y crois profondément. Je pense que il ne faut pas se mettre des barrières. Si on a envie d'écrire un livre, il faut écrire un livre. Si on a envie de faire un film, il faut faire un film. Si on a envie de changer de vie complètement, c'est d'ailleurs le thème de Sucre. Sucre, on a ce personnage malheureux en mariage, quadra désabusé, un enfant avec qui la communication est complètement coupée, une femme qui l'a profondément et passionnément aimé au début et puis qui ne lui inspire plus grand-chose.
Ouais, qui voilà. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de mettre du sucre dans son café le matin, alors que le café sucré, c'est très très mauvais finalement quand on y pense.
Oui, mais c'est un choix qu'on est en droit de faire, et ce personnage-là est très intéressant parce que, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je ne lui ai donné, j'ai décidé de ne pas lui donner de nom parce que c'est le cas de tous.
C'est trop fort parce qu'en fait vous bottez en touche et vous retombez les deux pieds sur vos personnages. Vous avez le choix, on écoute, ça c'est, alors donc, bande originale de votre livre. Soit on a le choix, c'est Doc Gynéco, première consultation, soit c'est MC Solar Caroline.
MC Solar Caroline.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur.
une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline.
Comme une odeur de dragibus. Quand on écoute cette chanson, on a du mal à imaginer qu'elle va avoir presque 30 ans cette chanson.
C'est fou.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
De voir qu'elle a si peu vieilli, surtout.
De voir qu'elle a si peu vieilli, effectivement. Moi, je me souviens, quand j'étais môme, j'étais amoureux de la fille qui était dans le clip de MC Solar, déjà dans un premier temps. Et ce son, cette mélodie, c'est un peu la bande-son de ma vie aussi. Elle m'obsède toujours autant. Et je l'écoute toujours avec autant de plaisir. Alors, avant, je disais que j'aimais aussi cette chanson parce ce morceau parce que c'était la seule chanson d'amour du rap, et puis entre temps le rap a beaucoup changé, maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour dans le rap, ce qui n'était pas le cas avant. C'était beaucoup plus dur. On était beaucoup plus inspiré du gangsta rap américain avec des Tupac et des Biggie et autres, mais ça reste la première chanson d'amour du rap et
avec beaucoup de figures de style quand même, hein.
exactement, ça il était très friand. Solar, il adorait faire ça. Et puis aujourd'hui, celui qui est un peu son héritier de ce point de vue-là, ou qui joue beaucoup avec les figures de style, je dirais, bon, il y a un peu tous, hein, mais Nekfeu, beaucoup d'allitération chez Nekfeu. Ouais. Beaucoup d'allitération, des jeux de mots très malins aussi. Mais voilà.
Doc Gineco, alors, quelques années plus tard, moins de nostalgie finalement de Doc Gineco, mais quand même, il a marqué son époque, Doc Gineco.
Ah non, moi, beaucoup de...
Surtout avec ce premier album.
Beaucoup de nostalgie de Doc Gineco.
Ouais.
Première consultation, c'est classique du rap français. Classique.
Alors peut-être qu'elle est moins connue, hein. Elle est moins passée à la postérité que Caroline.
Laquelle?
Première consultation.
Première consultation, il faudrait... Ah, c'est laquelle?
Ça c'est première consultation. Mais c'était le nom.
Viens voir le docteur.
Voilà. Mais ça, c'est parce que c'était le nom de l'album en fait.
C'était le nom de l'album. Tout à fait. Voilà. Mais non, dans première consultation, tous des classiques. Viens voir le docteur. Passement de jambes. Vanessa. Né ici. Enfin, on est là-bas. Enfin, bref, c'est tous des classiques. Cet album est parfait. Il n'y a aucun morceau qui est mauvais dans Première Consultation. Et il est venu, il a renversé la table, Doc Gineco, avec son personnage déjà, très marrant, très éloigné des rappeurs, encore une fois, un peu durs, etc. Lui, c'était vraiment un mec drôle, un mec pas bête du tout, qui jouait aussi de ce personnage. Il y avait une plume fabuleuse. Et la façon dont il parlait des femmes aussi, c'était trop marrant. Et très poétique aussi. Pour moi, c'est pour ça que j'ai hésité un peu avec quand vous m'avez demandé est-ce qu'on met du Solar ou.
Bon, on a mis les deux finalement.
Ou du Doc Gineco. Ouais.
C'est surtout donner envie à ceux qui nous écoutent de se replonger dans ces albums.
Oui, après il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Après Solar, je pense qu'il est un peu trop oublié, je trouve. On parle.
Il est revenu entre le moment où on a fait la première émission ensemble et le moment et aujourd'hui, il a ressorti un album.
Ah et...
oui,
j'ai même pas fait gaffe.
2017, il a fait un album.
Ah, 2017, d'accord.
Ouais, enfin mais bon.
Je pensais maintenant.
Mais aujourd'hui, les gens produisent plus d'albums à la même vitesse, des projets comme on dit. Voilà.
Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, hein. Aujourd'hui, ça va très très vite au point où il y a des albums qui passent complètement inaperçus, des morceaux qui passent complètement inaperçus. Il y a une déferlante à chaque fois. Moi qui adore le rap, même le rap d'aujourd'hui, je suis pas du tout de ceux qui disent que le rap c'était mieux avant. Même si je peux comprendre ceux qui disent ça. Moi j'aime beaucoup les artistes de maintenant, les Leilo, les Cobaladé, les RK, les GLK, les tous ces nouveaux artistes, Love Resval du 91 et tout, je trouve qu'ils ont une vraie créativité, mais avec l'abondance vient aussi le fait que on peut pas tout écouter. Il y a beaucoup de morceaux qui sont très bons et qui passent un peu à la trappe. Et c'est un peu la difficulté, mais c'est juste magnifique. Et puis on revient au texte dans le rap. J'ai l'impression qu'on était sur quelque chose qui était beaucoup plus chanté, et là on revient avec des gens qui ont des vraies plumes. Love Resval a une vraie plume, par exemple. Cobaladé moins, mais il écrit pas si mal que ça.
Samir est notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h à l'occasion de la sortie de son premier roman. Ça s'appelle Saccharose aux éditions Jean-Claude Lattès.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Samir est avec nous à l'occasion de la publication de Saccharose. Alors on dit que c'est votre premier roman. Est-ce que c'est vraiment votre premier roman ?
Oui, c'est mon premier roman. Dans la version que vous lisez actuellement, voilà. C'est mon premier roman. Après, c'est vrai que la première partie de Saccharose, qui s'intitule Bonbon, je l'avais publiée dans une version stylistique aussi différente, il faut le dire, il y a quelques années de ça, en auto-édition. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous rendre hommage, Philippe, ici à ce micro, vous avez été le premier à en parler, probablement le seul.
C'est parce que c'était bien. On me l'avait suggéré. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait les dragibus. Quelqu'un qui arrivait à faire la différence entre un dragibus jaune et un dragibus noir. Moi, je pensais qu'ils avaient le même goût, mais non. Visiblement, Delphine Thébault, si elle nous écoute, avait senti la subtilité.
Ah non, les dragibus noirs, c'est quelque chose.
Vous expliquez ça, là, parce que c'est le truc du dragibus noir. Qu'est-ce qu'il... Moi, je pensais qu'en fait, c'était un peu comme les Smarties, quoi. Ils avaient le même goût.
Il y en a qui vont nous dire, il y en a qui disent que ça se passe dans la tête, que la couleur dicte au palais le goût que ça doit avoir. Moi, je ne crois pas. Les dragibus noirs, je crois même qu'il y a une recette secrète, que le fondateur est mort avec, ou qu'il n'a jamais voulu la révéler, qu'on a retrouvé ça un peu par hasard. Enfin bref. Mais pour moi, les noirs, ils ont clairement un goût différent du reste, et moi, je ne mange que les noirs.
Bien. Donc, ce qui veut dire que dans un paquet, qu'est-ce que vous faites des autres ?
Ah, je les donne.
Dans un paquet de dragibus normal, donc vous ne gardez que les noirs.
Je prends les noirs et je donne les autres. Je donne les autres avec plaisir.
Alors, trois hommes, il y a un trader là, alors c'est pour ça qu'on vient, il y a Case aussi, et puis il y a cet homme qui n'aime plus sa femme, et ce romancier qui n'arrive plus à écrire, que vous avez rassemblé dans un même roman. Le romancier, il a des... Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a des goûts cinématographiques aussi... Pas très actuel, finalement. Pas très d'aujourd'hui.
Laissez-moi
et pas toujours des grands films, en plus.
Non.
Par exemple, sur Pacino, c'est vraiment un petit film.
Non, là, ceci du diable.
Ouais.
Non, moi, je suis pas d'accord avec vous, Philippe. Je suis pas d'accord avec vous.
C'est la fin des grands... C'est la fin du grand Pacino.
Moi, j'adore la ceci du diable. Personnellement, je trouve que c'est un film qui est sous-coté. Je trouve que Pacino est incroyable.
C'est Keanu Reeves qui est en face.
C'est Keanu Reeves qui est en face. Ouais. Puis il y a Charlize Theron aussi qui était dans un de ses premiers rôles.
Au tout début, hein, c'est un
ouais,
de ses premiers rôles.
Un de ses premiers rôles. Elle était déjà très belle. Et Al Pacino, je le trouve juste incroyable. Et la tirade qui est d'ailleurs reprise dans Saccharose, la tirade finale du diable, parce que. John Milton, qui est l'avocat, le diable, joué par Al Pacino. Cette tirade-là, pour moi, elle est historique, elle est incroyable, elle est légendaire. J'adore cette phrase-là, quand je l'ai écoutée, étant moi-même quelqu'un de croyant, on va dire, je me suis dit, il est trop fort. Il pourrait me tenter d'aller de l'autre côté, du miroir et devenir un de ces mignons et de vivre avec ses succubes, parce qu'il est trop fort. Et c'est ça, la force des mots. Et c'est là...
Shaitan, il est fort. Hein.
Il est très, très fort. Il est très fort. Donc, non, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un très, très bon film. Après, si j'essaie de réfléchir aux autres titres, Californication, c'est vrai que c'est plutôt jeune.
C'est une série. Alors, pourquoi vous avez mis Californication alors que finalement, c'est la série avec David Duchovny dont vous parlez.
C'est ça.
On est d'accord.
Ouais. Donc, pareil, écrivain un peu... Je pense qu'ils se sont aussi beaucoup inspirés de
Donc vous citez X-Files aussi à l'intérieur, donc finalement.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas très jeune non plus.
Ils se sont inspirés de Bukowski. Alors Bukowski, il avait une histoire incroyable, ce gars.
Ouais. Ah, Bukowski, il a une histoire incroyable. C'est un auteur extrêmement marrant, très poétique aussi, qui a eu un succès sur le tard.
L'histoire du postier qui écrit un roman, enfin, il est incroyable, ce gars.
C'est ça. Donc, ouais. Il s'est inspiré de sa
les
vie.
Les contes de la folie
jusqu'à
ordinaire.
Jusqu'à 40 ans. Ouais. Il a vécu de petits expédients. Il était postier. Il a travaillé dans un abattoir. Il a travaillé, c'est d'ailleurs ce qu'il décrit aussi dans son autre roman, Factotum. Donc, tous les petits jobs qu'il a pu faire, qui lui ont bousillé la santé. Il les raconte. Et un jour, il a ce succès littéraire et il trouve un éditeur qui est complètement amoureux de ses écrits et il lui dit « Je te file un peu de fric tous les mois, mais tu te mets à 100% à l'écriture. » C'est ce qu'il fait. Et pour la première fois, il va écrire des romans parce qu'il n'a pas commencé par les romans. Et d'ailleurs, il disait, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, sa correspondance qui était parue aux éditions Grasset, de 62 à 94, si mes souvenirs sont bons, donc email et lettres, parce qu'elle a sur le tard, c'était des mails.
Email était inventé. Ouais.
Voilà, exactement. Et il disait dans ses premières lettres, c'était très intéressant, qu'il écrivait à son éditeur et dit je sais que je suis incapable d'écrire un roman, je t'envoie mes poèmes et une nouvelle au hasard que je trouve pas très bonne. Et finalement, c'est tout le contraire. Il va écrire beaucoup de romans parce que en ayant le temps et en s'y mettant et il va y parvenir. Et quel grand roman, Woman, Le Postier, Factotum et d'autres. Donc Au Sud de Nulle Part, Je t'aime Albert, enfin il y a toute l'œuvre de Bukowski est hilarante. Moi je trouve que c'est l'auteur le plus hilarant de toute l'histoire de la littérature. C'est le seul auteur qui me fait fermer les livres et exploser de rire. Mais littéralement, exploser de rire tout seul pendant 10 minutes.
Il y a deux Leïla dans votre livre. Alors, il y a la Leïla de Keïs et Leïla, et puis il y a la Leïla d'un roman aussi que vous citez. Hein. C'est Fais voir tes jambes, Leïla, de Rachid Eldaïf. Pourquoi ce livre, finalement, est un livre que vous citez dans le vôtre et qui peut être une référence qui a été oubliée? C'est un livre auteur libanais.
Tout à fait. Alors, cet auteur, je l'avais découvert quand j'étais à Londres. Par une amie. Alors à l'époque, quand je travaillais à Londres, j'étais dans la publicité, dans la communication, et j'allais faire des cours du soir en arabe littéraire pour dérouiller mon arabe littéraire qui avait pris un peu de rouille avec mes années américaines. Et je faisais ça chez SOAS, donc c'est l'équivalent de la Sorbonne, ou non, de Langso plutôt, de Langso à Londres. Et il y avait une de mes camarades de cours du soir qui était passionné de littérature arabe et qui m'avait parlé de Rachid Eldaïf. Moi, je lui sortais les trucs classiques, Naguib Mahfouz, Nizar Qurbani, oui. Etc. Il me dit, non, mais tu devrais lire Rachid Eldaïf et tout. Et je vois ce titre-là qui m'est resté en tête. Et il m'est revenu en tête dans l'écriture de Sucre. Il m'est revenu en tête parce que le chapitre en question parle de Beyrouth. Parle de Beyrouth et l'auteur est libanais et l'injonction du titre en elle-même impérative, fais voir tes jambes Leïla, aurait pu et effectivement ce que le personnage avait envie de crier à la fille qu'il avait en face de lui, qui s'appelle probablement pas Leïla, et c'est ce livre qu'elle sort. Donc c'est cette correspondance entre le sujet du chapitre Beyrouth et ce souvenir d'il y a quelques années qui me l'a fait mentionner.
Justement, en parlant d'arabe littéraire, comment votre éditeur a-t-il réagi quand vous lui avez dit que vous alliez écrire en arabe dans votre livre?
Ah, il a été enthousiaste, très vite. Il a compris la logique, il a compris l'objectif et le petit rébus ou la petite énigme qui est sous-jacente à ces titres arabes qui intitulent chacun des chapitres de bonbons.
Comment est-ce qu'on sait quand on est écrivain, finalement, et comment on fait pour savoir si on en dit juste assez?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ah.
Est-ce que finalement, dans votre livre, vous avez dit juste assez de ce que vous vouliez faire?
Je pense que l'œuvre, elle est parfaite pour moi. Elle est parfaite. J'en rajouterai pas, j'en enlèverai pas. Pas du tout. Mais pour revenir sur votre question, quand on sait qu'on est un écrivain, c'est... Il y a cette citation de Philippe Jean qui me revient. C'est ça que je cherchais. Et Philippe Jean, il dit, on sait qu'on est écrivain à partir du moment où le moindre mot devient un problème. Et il a tout à fait raison.
Combien de versions pour Saccharose ?
Combien de versions, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que combien de versions avez-vous fait de vos textes ? Une, 10, 20, 30, 40 ?
Peut-être 3.
3 ?
Ouais. 3. Non, après, moi, quand j'écris, j'écris sur mon téléphone, j'écris pas au papier et au crayon. Ce qui me permet d'éviter toutes les ratures qui m'embrument l'esprit. J'aime pas la vision des ratures, ça me stresse. Donc, en écrivant sur mon téléphone, j'ai toujours tout propre. Et quand ça me vient en une seule fois. Parce que je fais tourner la phrase un million de fois dans ma tête, mais quand elle me vient juste à chaque fois. Mmh. C'est pour ça qu'il y a peu de versions, en fait.
On va terminer cette émission avec PNL. C'est pas, on l'écoute pas souvent sur Beurre FM. Hein.
Ah, cool.
PNL, donc, à l'ammoniaque. Alors, un clip, c'est le cinquième de PNL qui a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez finalement de la stratégie de communication d'un groupe comme PNL et de leur texte ?
Extraordinaire. Je trouve que c'est une stratégie extrêmement brillante, mais il faut en faire l'archéologie pour bien comprendre. PNL, on les a connus avec l'album « Et je veux le monde ». Mais ils avaient fait un album avant qui n'avait pas trop marché, qui s'appelait QLF, donc Que la famille. Et avant ça, ils avaient fait des collaborations, ils avaient fait des titres. Et comme tout nouveau rappeur, ils ont essayé d'attirer l'attention des médias rap, ils écrivaient à tout le monde, ils envoyaient leur CD, ils envoyaient leur titre en MP3, etc., pour l'époque. Personne ne les calculait. Personne ne les calculait. Et puis, ils sont devenus... Et à partir du moment où on a commencé à parler d'eux... Et à dire ah c'est cool ce que vous faites, là ils sont rentrés dans leur coquille, ils ont dit non mais on parle avec personne maintenant.
Stratégie Bill Bain.
Exactement, stratégie Bill Bain. C'est une private joke entre moi et Philippe.
Non, j'ai lu un très bon article dans Forbes où vous parlez de cette stratégie du moucharabier, c'est-à-dire voir sans être vu.
C'est vrai.
Et la stratégie qu'avait mis en place Bill Bain, qui avait monté une agence de communication. Il est mort, hein, aujourd'hui.
Il est mort.
Et c'était la rareté de la communication, finalement, sur la rareté de l'apparence de...
C'est ça. Je pense qu'il faut, de toute façon, jamais trop en dire et jamais trop en révéler. Si on revient sur ce que vous disiez auparavant, sur le compartimenté...
Vous savez qu'on a tourné autour du pot et je vous ai pas embêté.
Non, c'est vrai.
Je vous ai pas parlé de votre business de gâteau avec votre mère, par exemple.
Ça, c'est vrai. Non, mais ça, vous me ramenez à une époque...
Stratégie de gâteau avec votre pauvre mère.
Avec,
que vous saignez.
C'est vrai, c'est vrai. Ces pauvres doigts. Aujourd'hui, elle m'en parle encore. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ces gâteaux.
Premier business, vous aviez quel âge ?
Je crois que j'étais au lycée, je crois.
Vous avez toujours fait du business. Et là, l'interview, c'est plus la même, vous voyez. Si on commence à s'intéresser à l'homme de business que vous êtes depuis que vous avez 8 ans ou 10 ans.
Ouais, mais j'aime moins...
Ouais, allez, l'écrivain de Saccharose. Bon, vous savez, Saccharose, c'est notre coup de cœur. Vous le montrez à la caméra aux éditions Jean-Claude Dattès. Et on termine donc avec PNL. Très bon dimanche sur Beurre FM.
Je crois que personne ne vit sans regret. Nous, on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Waouh, à la vie, à la mouette. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Je t'aime. À la folie. Passionnément. À l'ammoniaque. Je t'aime. À la folie. Passionnément. À l'ammoniaque.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.